Quel sentiment tu ressens?
J'aimerais faire une introspection, quoi.
Trouve-moi un dictionnaire, regarde la introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Salut.
Salut Anne-Li, salut l'oreille curieuse. Donc effectivement, oui, nouvelle chronique du prêt à penser, hein, n'est-ce pas?
Oui, oui, voilà. J'ai des problèmes de cerveau, mais...
Ouais, non, mais on en a tous, hein.
Mais bienvenue, Nicolas.
C'est aussi pour ça que je suis là.
Hein. Oui, et oui, voilà. En tant que professionnel de psy, alors tu veux...
Voilà, c'est ça, voilà, on va y venir, professionnel de quoi, on va voir un petit peu plus spécialement. Donc, le prêt-à-penser, en tout cas, c'est, pour rappel, la chronique psy qui essaye de pas trop se prendre la tête, mais un petit peu quand même, hein, parce que sinon, c'est pas une chronique psy, hein, on est d'accord. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Andradez, je suis donc psychologue clinicien, et aujourd'hui, je vais vous faire une chronique en forme de mini-guide sur comment s'y retrouver parmi justement les différents psys qui existent, hein, parce que ceux qui ont écouté la premier prêt-à-penser, pardon, oula, le premier prêt-à-penser, on va y arriver, hein, il y a 15 jours, auront peut-être remarqué que je m'étais contenté du préfixe psy pour qualifier le thérapeute quand il en était question, et je l'ai fait volontairement, car il existe en effet plusieurs psys, parmi lesquels les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes, les psychothérapeutes, les psychopraticiens, bref,
la faune.
Pas toujours facile, c'est la folie. Donc effectivement, quand il s'agit de décrocher son téléphone pour contacter un professionnel, on ne sait pas trop qui appeler. Donc voici une petite présentation et je vais commencer donc par les psychiatres. Donc je vais dire quelque chose de très clair à leur sujet, déjà pour commencer. De tous les psys dont je vais vous parler, les psychiatres sont les seuls médecins. C'est-à-dire que ce sont les seuls à avoir passé avec succès le concours de médecine. Et ils ont ensuite suivi, comme tous les médecins, le tronc commun d'enseignement de la médecine, effectivement, avant de se spécialiser pendant 4 ans en psychiatrie. Voilà. Donc en tant que médecin, les psychiatres sont les seuls à être habilités à prescrire des médicaments psychotropes, type anxiolytiques, antidépresseurs, etc. Ce qui fait qu'en règle générale, ils sont particulièrement indiqués pour les maladies psychiques sévères qui nécessitent pour le coup des traitements médicamenteux en parallèle d'une éventuelle psychothérapie. Et d'ailleurs, attention, tous les psychiatres ne pratiquent pas forcément de psychothérapie. Certains se concentrent uniquement sur l'approche médicamenteuse, comme je viens de le dire. Et ça peut s'avérer un peu frustrant pour certains patients qui les rencontrent, qui s'attendaient à quelque chose de plus personnalisé. Alors après, il y a aussi des psychiatres qui pratiquent des psychothérapies tout à fait normalement et qui sont très à l'écoute de leurs patients. Hein. Autre spécificité importante du fait de leur qualité de médecin, une partie au moins des frais de consultation, dans la mesure où ils rentrent dans le cadre des actes médicaux, sont admissibles à un remboursement par la sécurité sociale, ce qui n'est pas du tout négligeable du point de vue du patient. J'en viens à la deuxième catégorie, dont je fais partie, donc les psychologues. Et les psychologues, donc, ils sont diplômés, eux, d'un Master 2 en psychologie clinique, souvent, hein, ce qui équivaut, en gros, à un Bac plus 5. Ce qui fait que ce ne sont pas des médecins, ils ne prescrivent donc pas de traitement médicamenteux.
C'est pas la peine de leur demander, ce sera jamais le cas.
Voilà, ce sera jamais le cas, parce que, tu seras d'accord avec moi, il vaut mieux que le cordonnier s'arrête aux chaussures.
On est d'accord.
On est d'accord. Leur consultation ne s'apparente donc en aucun cas à des actes médicaux et de ce fait, eh bien, ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Parfois, certaines consultations peuvent être prises en charge par certaines mutuelles, mais ça s'arrête là. Leur spécificité, elle réside dans le fait que l'intégralité de leur formation a été consacrée à la connaissance du fonctionnement psychique et de la pratique des psychothérapies. De ce fait, ils ont pu se former à différentes approches et choisir une plus particulièrement. Ainsi, il existe des psychologues orientés par la psychanalyse, d'autres par les théories systémiques, encore d'autres par des théories plus cognitivo-comportementalistes. Bon, c'est un petit peu compliqué dit comme ça, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine chronique, mais en tout cas, ce qui est important pour les auditeurs, c'est que si vous allez voir un psychologue, n'hésitez pas à lui demander où est-ce qu'il se situe par rapport à tout ça, éventuellement, renseignez-vous un petit peu en amont pour optimiser vos chances que ce soit ce qui vous corresponde. J'en viens maintenant aux psychanalystes. Alors les psychanalystes, ils ont tous en commun de se référer à la théorie psychanalytique, donc c'est celle qui est initiée par Sigmund Freud entre la fin du 19e et la première moitié du 20e, on va dire. Donc depuis, bien évidemment, cette théorie, elle a bien évolué, il y a différents courants, et heureusement, voilà, bien sûr, tout ça c'est dynamique, c'est vivant. Donc il y a des courants qui sont apparus, et donc les psychanalystes, ben, selon dans quel courant ils se placent, ils peuvent avoir des approches un peu différentes. Mais en gros, pour caricaturer vraiment le truc, c'est l'image typique du patient allongé dans un divan, qui parle à son thérapeute, en général plutôt silencieux. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que le titre de psychanalyste, au contraire des deux précédents, il n'est absolument pas réglementé. C'est-à-dire que techniquement, n'importe qui peut se prétendre et s'afficher psychanalyste sans craindre de sanctions légales. Alors, je vais mettre un gros bémol à ça quand même, puisque dans les faits, la majorité, la grande majorité des psychanalystes sont en fait des psychologues et des psychiatres de formation, mais qui sont affiliés par ailleurs à des organisations, des écoles psychanalytiques reconnues et qui ont suivi un protocole strict relatif à ces organisations. Hein, typiquement, il est souvent exigé que les psychanalystes puissent faire état d'une psychanalyse eux-mêmes personnelle en tant que patient de plusieurs années, laquelle leur permet d'accéder à une formation spécifique prodiguée donc par les organisations psychanalytiques qui peut durer encore plusieurs années supplémentaires. Donc on voit bien que devenir psychanalyste, selon le parcours en tout cas établi par ces écoles, n'est pas une chose aisée. Et bon, le fait que ce ne soit pas réglementé, ça ne suffit pas de qualifier tous les psychanalystes de charlatans, autoproclamés, etc.
Oui, oui, ce qui n'est pas le cas.
Ce qui
peut sans doute
relativement
exister.
Pas le cas, voilà, mais c'est important quand même de le savoir parce qu'effectivement, ça peut potentiellement exister. Donc, ben, encore une fois, en tant que patient, n'hésitez pas, n'ayez pas de complexe à poser des questions sur le parcours, sur la validité un peu de la personne que vous avez en face, parce que s'il a fait quelque chose de sérieux, il n'aura pas de problème pour vous le dire. J'en viens maintenant au cas particulier des psychothérapeutes. Puisque là encore, avant 2010, ce titre n'était absolument pas réglementé et c'était encore plus vague que pour les psychanalystes parce que pour le coup, psychothérapeute, ça ne réfère même pas à une théorie, à une pratique particulière. Donc ça veut dire qu'avant 2010, n'importe qui pouvait visser une plaque de psychothérapeute devant sa maison et puis recevoir des patients et faire exactement ce qu'il voulait, voire n'importe quoi. Donc depuis 2010 et de façon plus tangible depuis 2012, l'État français a réglementé ce titre et désormais, seuls les psychiatres, les psychologues et les psychanalystes pouvant faire état d'une formation qualifiante peuvent utiliser ce titre. Alors forcément, le fait que ce titre ait été réglementé, ça a fait que tous les autres professionnels qui ne correspondaient pas au nouveau cadre ont dû se désigner par un autre terme et ce terme c'est psychopraticien. Voilà. Et ça va être le dernier psy que je vais évoquer ce soir. Parmi les psychopraticiens, vous pouvez trouver des hypnothérapeutes, par exemple des coachs, des sophrologues, etc., dont les formations relèvent en général d'organismes privés sur lesquels on a peu de recul, mais ce qui n'est pas pour moi une façon de les invalider ou de porter un regard péjoratif, c'est juste, encore une fois, important que les auditeurs le sachent. Le but étant, in fine, et je le répète, c'est vraiment ma position, que chacun trouve chaussure à son pied. On n'est pas très loin du cordonnier encore ce soir. Mais c'est très important parce que l'idée, c'est que chacun puisse trouver un interlocuteur en fonction de son histoire, de son parcours, de ses croyances parfois, avec qui le fait d'échanger puisse apporter un bien-être supplémentaire. Voilà. Et j'espère humblement que cette petite présentation pourrait y avoir contribué. Merci.
Ça va mieux ?
Eh, beaucoup mieux. Super.
Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions.
Je t'en prie, Anne-Lie, je t'en prie, si je peux rajouter juste un petit quelque chose, parce qu'en rapport avec l'actualité, en tant que psychologue, il y a des choses qui
tendus.
Sont importantes pour moi, de dire à l'antenne, puisqu'on parle tous d'une rumeur de ce soir 20h, de l'annonce d'un confinement, donc je ne sais pas si c'est le cas, je n'ai pas de source privilégiée, mais en tout cas, dans l'éventualité d'un confinement, je voulais juste dire que le précédent confinement nous avait quand même montré à nous, professionnels, de l'aide à la personne, à quel point ça pouvait avoir des effets désastreux psychologiques au niveau des familles, au niveau des personnes fragiles. Et je voulais préciser que le confinement précédent nous a amené, pour un grand nombre d'entre nous, dont je fais partie, à inventer aussi d'autres façons de rester accessible aux personnes pendant un confinement. Donc je parle de visio, de téléphone, parfois de dérogation pour aller rencontrer des gens à domicile. Et c'est très important que les gens sachent que tous ces dispositifs existent pour un grand nombre de professionnels et qu'ils peuvent appeler en cas de besoin, qui peuvent appeler donc des professionnels qui soit leur proposeront quelque chose, soit j'espère auront l'amabilité de les orienter vers des confrères qui pratiquent donc des formes alternatives, on va dire, de consultation spécifiquement au confinement. Voilà.
Ouais, le mieux c'est d'appeler, de poser la question, voilà. Que ce soit un psy qu'on trouve sur internet, dans le bottin,
à
des assos de soutien, ça existe aussi.
Tout à fait, voilà. Il faut vraiment passer le pas d'aller demander de l'aide quand il y en a besoin. Voilà. Le confinement n'arrête pas tout, il y a des gens qui restent en veille et bien conscients des enjeux. Voilà.
Bon, on pense fort à vous. Ouais. En tout cas, on est aussi inquiets, je crois. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines, peut-être.
On verra.
Je croise les doigts,
On
va faire comme si.
Et puis sinon, on inventera autre chose.
Voilà. Ouais, on inventera d'autres formes de radio. Voilà. En tout cas, le prochain Prêt-à-penser est prévu dans 2 semaines. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette oreille curieuse.